L'œil du phare, chapitre 7. Le carnaval au village. Depuis quelques mois, la condition économique de la famille Pellerin s'était notablement améliorée. Personne n'aurait pu l'ignorer. Les Dupin pourvoyaient à ses besoins, en attendant le jour où Jean, par son travail mieux ordonné, trouverait moyen d'y suffire. Sans ostentation et avec la discrète fierté de soustraire la pauvre veuve, sa sœur, aux humiliantes corvées chez les paysans, car on entretenait la vague intention de revenir au Canada en villégiature. Madame Dupin, qui jouit d'un fort grand crédit dans les finances et la générosité de son mari, a mis bon ordre à tout cela. À l'aide d'une correspondance régulière, se poursuit cette œuvre providentielle qui a pour double effet de vivifier là-bas, dans la charité fraternelle et chrétienne, des âmes naturellement bonnes et d'entretenir ici des cœurs au chaud de la plus vive reconnaissance. Partant, lorsqu'on apprit au Pignon Rouge que le jeune Dupin, dédaignant les plaisirs de la ville, viendrait passer quelques jours chez sa tante, dans l'intimité, à cette époque de l'année où l'on fait d'ordinaire si grand état d'un hôte au village, il y eut branle-bas dans la maisonnette. On aménagea à cette fin la grande chambre, et il n'y avait rien de trop beau par toutes les pièces de l'humble demeure qui ne trouva place au service de celui qu'on allait tant choyer. Toutefois, une dernière lettre vint un peu compliquer les choses. Émile y demandait la permission d'amener avec lui un ami très intime, Hector Hardy, qui, vu l'absence d'hôtellerie à Saint-Germain, serait aussi le commensal des bons villageois. Il répondait de son aménité exceptionnelle et de sa manière nullement encombrante. On peut frémir dans son humilité à de semblables propositions. Mais comment s'y refuser? Opposer gêne et réserve à ces Américains qui ne doutent de rien. Toutefois, le plaisir n'en fut que plus grand lorsqu'à la gare de Saint-Pascal, dans l'après-midi du 31 décembre, l'étudiant étranger, aussi franchement que le cousin, tomba dans les bras de Jean, tout comme s'ils se fussent déjà connus depuis 20 ans, et se présenta au foyer rustique avec la gentillesse à la fois la plus enjouée et la plus respectueuse pour disputer à son ami toute l'affection de sa bonne tante.
« Ce n'est pas gênant, dira bientôt celle-ci, de recevoir du monde aussi avenant. »
En effet, Hector Hardy, fils d'un professionnel à l'aise établi dans l'une des provinces de l'Ouest canadien, esprit superficiel astreint à subir sous peu les rudes épreuves qui conduisent au doctorat médical, n'est pas mari de faire trêve durant quelques jours aux trop sérieuses études qu'il mène de conserve avec ce confrère Dupin. Rendre un peu les guides à son humeur joviale au milieu d'une société bonne et naïve, mettre en œuvre ses multiples talents de société, même d'une façon carnavalesque qui repose l'esprit en faisant rire, servirait, pensait-il, d'heureuse détente aux efforts intellectuels que lui impose le commerce avec son copain, d'une intelligence plus pratique. Dans sa philosophie de Roger Bontemps, il estime trop commun le talent de se rendre détestable, et il cultive l'amabilité comme un art d'agrément. Conscient de sa valeur et de ses moyens, il ne songeait guère à abdiquer aucun des prestiges que lui valait son caractère de bout en train. À peine installé dans la paisible demeure, il en connaissait tous les êtres, et c'est lui qui, déjà après 1000 questions sur les us et les choses de la localité, dressait le programme divertissant des quelques jours qui allaient suivre. Ce qui égaye l'œil du touriste dans la campagne canadienne en hiver, c'est surtout la grande clarté que l'absence du feuillage et l'uniforme tapis des neiges a partout répandu. La carapace blanchie de la montagne ressort plus nettement de sa végétation dépouillée, et au creux des vallons, naguère ombreux, pénètre sans obstacle le rayonnement des jours ensoleillés ou des nuits constellées. La plage, surtout, comme à Saint-Germain, autour des lits et des caps, offre l'aspect du glacier aux moraines étincelantes, sourdement travaillées par l'action quotidienne du flot et du jusant de la marée.
Émile Dupin, qui a fréquenté ces parages il y a quelques mois à peine, s'intéresse tout particulièrement aux changements à vue de ce décor. Là où les eaux du fleuve en été languissaient le plus souvent aux abords faciles des terres, se trahit l'effort d'une formation que l'on dirait volcanique et qui journellement s'y tourmente. Sa pensée se reporte sur tous les rivages laurentiens qu'il a visités durant les beaux jours de l'été. Il cherche à se représenter ce qu'il en est à cette heure, impressionné de la grandiose nature dont son midi américain n'aurait pu lui suggérer aucune idée, ne s'étonnant plus que le Canadien, comme ses pères, puisse aimer cette patrie. Et c'est un peu pourquoi Jean et sa mère le trouveront plus réfléchi qu'ils n'auraient désiré le voir peut-être, craignant chez lui de l'inquiétude ou du malaise sous l'exubérante taquinerie de son compagnon. Mais non, Émile n'est que distrait momentanément. Rien ne l'empêchera à l'occasion de chaperonner gaiement son Arcadien. Si grande et si étrange que lui parut la nature, le lendemain matin, ce furent les traits de mœurs tout à fait canadiennes qui devaient à leur tour enchanter son esprit. À l'aube du premier jour de l'an nouveau, une lumière plus matinale a percé les fenêtres endormies du village. Déjà, une couple d'attelages aux grelots retentissants ont passé, rapides et joyeux, faisant crisser la neige durcie. Mais au lit trop léger du chemin de traverse, dont le raccord avec la grande route vicinale contourne le pignon rouge pour monter tout droit à l'église. Ceux-là qui passent ainsi, au point de cette aurore, sont de jeunes ménages, sans doute, qui s'en vont surprendre là-haut les bonnes gens, leur demandant au saut du lit la bénédiction traditionnelle, avant d'aller offrir à Dieu, dans la communion eucharistique, les joies et les tristesses anticipées du nouvel an de leur vie chrétienne. Émile et Hector, qui n'ont plus sommeil, s'entretiennent quelques instants, sérieux et attendris, de la sérénité de ces mœurs. Ils n'y contrediront pas, et puisque déjà des pas discrets annoncent le réveil de la maisonnée, ils viendront, eux aussi, surprendre la bonne tante Pèlerin et le cousin Jean après une toilette sommaire et leur souhaiter la bonne année dans un filial embrassement aussi pur qu'une bénédiction. Ils croyaient s'amuser seulement dans la démonstration un peu tapageuse de sentiments factices, mais ils provoquèrent en retour une cordialité si franche, une affection si visiblement reconnaissante et attendrie, que plus d'une fois ils ne purent se défendre eux-mêmes d'une émotion vraie. Par Paris et faire tour, chuchote l'étranger à l'oreille de son ami, qui d'un signe de l'œil l'engage à compter dans ses apartés avec la latinité de Jean. Et la conversation se poursuit dans le tête-à-tête du déjeuner, où la mère Pèlerin est à la fois amphitryon et servante, cherchant à deviner au regard de ses hôtes la satisfaction qui la récompense de ses peines. Au milieu de cette atmosphère de paix, d'humilité et de sincérité, les deux jeunes citadins, initiés depuis longtemps aux simagrées prétentieuses du grand monde, s'impressionnent malgré eux de trouver tant de bonheur dû à tant d'abnégation. Mais ils n'en ont pas fini de jouir de cette cordialité campagnarde. Après le déjeuner, tous partent ensemble pour se rendre à l'église où les villageois se réunissent longtemps avant l'office. C'est là que la bonhomie de nos mœurs rurales se centralise, qu'elle s'accuse, non plus comme au foyer d'un chacun, mais comme l'expression de l'esprit paroissial. Tout à l'heure, du haut de la chaire, le pasteur, le chef de la grande famille paroissiale, en appellera à cet esprit-là dans des souhaits de prospérité temporelle, dans des bénédictions en vue de la félicité éternelle. Pour les vieillards dont il fut le guide et le confident, qui vont bientôt partir avec lui, cette année peut-être, pour les jeunes gens qu'il veut orienter sûrement dans la vie et qu'il prévient des dangers à éviter, des épreuves que pourraient leur apporter les jours de l'an à nouveau. Il y a de tout cela, sans doute, dans les salamalecs usuels de toutes les sociétés à pareille heure. Compliments de la saison, shake hands, many returns, etc. Mais, Jamais Émile Dupin et Hector Hardy n'avaient éprouvé en telle occurrence d'émotions plus dégagées d'hypocrisie mondaine qu'en entendant les paysans se souhaiter, après tant de bonnes choses, le paradis dans le ciel. Comme s'ils avaient pu s'oublier et faire de cette vie si sereine leur paradis sur terre. Après la messe, des groupes se sont formés au hasard de la parenté, de l'amitié et autres hasards aussi plus favorables à la jeunesse, pendant que les voitures recueillent ceux qui s'en vont au loin. L'indiscrétion badaude, moins que jamais cherchant à se dissimuler ce jour-là, entoure à triple rang de figures béates la famille Pellerin et ses deux hôtes de la ville. Ceux-ci ne manquent pas d'entrain. Ils répondent gentiment, sans affectation aucune, à toutes les présentations que Jean se plaît à faire de leur intéressante personnalité. On comprend que les membres de la famille Briand ne pouvaient échapper à ce cérémonial, d'autant mieux que la proximité de leur demeure leur permettait de s'attarder aux compliments répartis à tous, pour gagner enfin le domicile à tout petit pas, à la file indienne, par les trois sentiers qui s'ouvrent dans la neige et aux éclats de voix d'une conversation des plus enjouées. N'oublions pas que les derniers mots de presque tous ces entretiens, à la porte de l'église, traduisent des invitations à des dîners, des soupers et des veillées que l'on se gardera bien de refuser au cours du carnaval. Mademoiselle Esther Briand peut laisser aux deux mamans le soin de prendre jour pour les invitations aux réunions prochaines. Elle a tant à faire de répondre, sans trop d'ingénuité, mais avec réserve tout de même, comme il lui sied bien, aux civilités des trois jeunes gens. Quand on aime, rien n'est frivole. Un rien désole, un rien console. Et si elle n'a pas encore logé de sentiments bien sûrs et bien personnels au foyer de son cœur, elle sait du moins, croyez-le, se tenir ingénument à l'affût des riens avant-coureurs. À la suite des dernières réparties où s'escomptait le plaisir du revoir, quand les trois jeunes garçons regagnèrent allègrement la grande route où les devançait maman Pellerin, on se dit qu'elle était charmante, cette jeune personne, suivant l'expression coutumière. Et, sans déroger non plus à la coutume, on aurait pu croire que la jeune personne, à sa manière d'aller rejoindre ses parents et d'entrer chez elle, le savait un peu qu'elle était charmante. Dans l'après-midi, Jean et ses amis ne laissèrent pas d'aller présenter leurs hommages à monsieur le curé. Le bon vieillard les reçut avec un enjouement qui lui faisait oublier les fatigues de son ministère. Il ne voulut pas se soustraire à l'ambiance joviale qui mettait le rire sur toutes les lèvres, et dans cette journée où tous ses paroissiens lui paraissaient si heureux de vivre la vie canadienne, il trouvait l'occasion belle de taquiner spirituellement Émile Dupin sur sa définition trop prosaïque de la patrie. Il ne l'avait pas oublié. Il s'y amusa davantage quand Hector, à l'esprit si caustique, seconda sa partie, avec grand plaisir de contrarier son ami. « Ne parlons pas de ces Américains, monsieur le curé, lui dit-il. Ce sont des cosmopolites, comme les Juifs. Ils vivent sur des chemins de fer, l'âme à l'usine et l'esprit dans les banques. C'est du reste un peu comme cela chez nous, dans l'Ouest. Nous ne connaissons guère la petite patrie dont le souvenir fait pleurer. Dans les villes industrielles et modernes, comme dans la France de Daudet, Robin ne croit plus au sortilège, mais il ne croit pas davantage à la patrie. Ici, vos montagnes à l'horizon, les rives du grand fleuve, vous permettent de regarder au loin, et très loin, sans voir l'étranger. Tous ceux que vous rencontrez sont d'une même et grande famille. Quand le soleil se couche derrière les Laurentides, il s'y retire grandiosement, comme un roi dans son alcôve, frangée d'or et d'orange. Mais là-bas, il s'affale en pâlissant, comme un soifeur dans un buisson, sur des tuyaux de cheminée ou des champs de blé d'Inde, et l'on ne saurait appeler ça une patrie. Ce coq à l'âne met fin à la conversation dans un éclat de rire général. On prend congé, en se promettant bien de se revoir et de recommencer quelque part durant ces jours de fête. Les courses en raquettes à travers champs, les collines d'un attrait si nouveau pour Émile Dupin, d'autres en voiture traînante sur la neige lisse ou dans la giboulée, occupèrent leur journée. Et le soir, après avoir visité quelqu'une des localités du voisinage, c'était plaisir d'en parler lorsque l'hospitalité rustique les conviait à tour de rôle chez les plus intimes de la famille Pellerin. Il était entendu que la fête des rois les réunirait tous à la table relativement opulente des brillants. Déjà une couple de fois, Jean et ses amis avaient retrouvé la demoiselle Esther, fortuitement sans doute dans ces réunions. Mais l'amusement du jeu de cartes et de la conversation trop générale n'avait pu donner aux citadins l'occasion de faire valoir leur talent de société. Au salon de la riche demeure, ce serait moins prosaïque. Là se trouvait l'unique piano de la paroisse, puisque l'héritière de Séan en était à l'étude des beaux-arts. Au cours d'une visite cérémonieuse, Hector Hardy s'était révélé pianiste et chanteur des plus intéressants. Réputation qui n'avait fait depuis que s'amplifier dans les petites causeries où l'on aime à tirer parti de ses connaissances et de ses goûts artistiques. Et l'on avait grande hâte d'entendre cet artiste de salon, dont le nom volait sur les lèvres de tous ceux qui seraient invités à cette mémorable veillée. La réclame en faveur de l'étranger avait été tellement bruyante que les convives, pourtant naguère si intéressés à l'immutation sociale de Jean et de sa mère, ne voudront pas tout d'abord remarquer combien ces derniers s'y trouveront effacés. Plus tard, un peu plus tard, la critique envieuse se reprendra. Mais à la table du banquet, sous les yeux du couple brillant qui jouit de son bien-être et de ses largesses, on n'aura que sourire et applaudissements à donner. On sera tout oreille aux spirituels répartis échangés entre le vieux curé et les deux jeunes étudiants, chez lesquels il avait à qui parler comme aux jours gais et brillants de sa jeunesse. Quand arriva le moment si impatiemment attendu de tirer le gâteau des rois, c'est lui, grâce à son âge et à son caractère vénérable, qui fut appelé à faire la part d'un chacun, sans oublier la part de Dieu, destiné au premier indigent venu le lendemain matin, suppliant et souffreteux à la porte de service. C'est lui qui, sans le savoir, avec tout le sérieux de la Ligue des Nations tranchant dans la carte d'Europe, va aussi trancher dans cette miche affriolante, recelant le symbole d'une royauté aléatoire, factice et d'un seul jour, mais pouvant avoir son influence sur la destinée de ceux qui s'en amusent. Avec la large lame bien affûtée dont la ménagère a récemment ravivé tout l'éclat, d'un grand geste solennel, il divise le gâteau et distribue les parts égales, de cette pâte légère qui s'en vont de main en main garnir le pourtour de la longue tablée, sous les yeux rieurs et intéressés des nombreux convives. Prenez garde, monsieur le curé, que le sort envieux au service d'un petit dieu malin ne vous fasse de votre grand geste solennel et joyeux trancher ainsi la trame assez tenue de votre cher projet. Il est vrai que dans la pièce voisine, où l'on dresse les mets abondants de la table, des plaisants bien intentionnés ont apporté secrètement deux couronnes agrestes, en paille d'avoine et paille de blé, piquées de quelques roses domestiques. Elle devait vous faire sourire de contentement, ces couronnes. Mais déjà mademoiselle Esther accueillit presque sur sa lèvre carminée la fève qui l'a fait proclamer reine. Et tout de suite, voilà le sort. Hector Hardy montre à tous, en le tenant délicatement du pouce et de l'index, le poids qui le désigne à la royauté éphémère de la soirée. Bien peu des joyeux convives ont pu remarquer qu'au même instant, une subite pâleur au front de Jean Pellerin a trahi chez lui quelque malaise. Mais personne n'en saura la cause. Personne ne saura, pour le moment du moins, qu'il vient aussi de croquer un poids, que la supercherie s'accuse à lui seul et que le rôle de prétendant frustré lui met au cœur un dépit qu'il ne connaissait pas encore. Les couronnes agrestes restèrent à la cuisine. On n'osa pas les mettre au front du roi et de la reine, que la haute culture intellectuelle, le rayonnement de l'instruction et du bel esprit nimbaient déjà aux yeux de tous d'un prestige presque égal à celui d'un lignage vraiment supérieur. Le roi et la reine furent superbes de belles manières et de bon ton dans leur rôle de majesté pour rire. L'esprit exercé du pseudo-souverain se donna carrière dans les répliques et les boniments qu'on lui imposa. Tandis que Mademoiselle Esther faisait bien voir que l'éducation reçue dans nos couvents seconde parfaitement les aptitudes naturelles de l'esprit féminin à toutes les carrières, même à celles qui pourraient conduire sur les marches d'un trône. Non, les couronnes d'avoine et de blé n'étaient plus en place. Au salon où l'on passe après le banquet, où le roi et la reine vont exercer sur tous et mutuellement sur eux-mêmes le pouvoir fascinateur de leur charme personnel et de leur supériorité intellectuelle, Émile Dupin, dont le cœur est droit et bon, se place auprès de son cousin Jean. Il commence à s'inquiéter de l'impair qu'il aurait involontairement commis en préparant le désarroi de l'idylle dont sa bonne tante lui a tout naguère confié le secret. Peu enclin lui-même au plaisir du flirtage, avec son esprit hanté des préoccupations pratiques de la vie industrielle au milieu de laquelle il a jusqu'à présent vécu, sérieusement adonné aux études professionnelles, il n'avait pas encore souffert des sollicitations de son cœur ingénu. Ce que sa tante lui avait secrètement appris des projets d'établissement du cousin Jean l'avait fait sourire et l'avait réjoui, comme l'aurait pu faire une charmante lecture de roman. Ajoutez que son amitié tendre et sincère pour le jeune parent pauvre n'aurait jamais pu rien susciter chez lui de l'antagonisme qu'il voyait poindre. Et voilà comment, aux yeux de bien des gens, l'attitude de l'Américain pendant le reste de cette joyeuse soirée paraîtra insolite, prêtera à des suppositions injustes. Monsieur le curé saisira mieux le sens de sa réserve et des traits de sympathie qu'il lui verra témoigner à son élève, car lui aussi s'inquiète des effets de la petite intrigue commencée au banquet et qui se poursuit auprès du piano. Mademoiselle Esther et Hector, dans leur personnage carnavalesque, intéressent de moins en moins l'assistance pour s'intéresser de plus en plus l'un l'autre. La jeune fille, dont l'éducation déclassée n'offre rien de paysan, trouve l'occasion trop belle d'accuser ses goûts et ses connaissances avec l'étudiant, qui possède une inépuisable pacotille artistique de salon. Elle avait instinctivement le secret de l'élocution musicale. Elle savait non pas bourrer de la musique avec des mots, mais bien dire en chantant ce qu'elle avait à dire. Après qu'ils auront tour à tour donné quelques pièces de chant ou de piano, à la satisfaction par trop béate de la plus grande partie de l'auditoire qui ne sait pas applaudir, ils trouveront tout à l'heure un plaisir plus intime et plus affiné dans des premières lectures de duos de chant et d'études à quatre mains. Ils auront bientôt ce loisir agréable, car monsieur le curé, sur les 10 heures, alléguant son grand âge et son ministère, évidemment aussi beaucoup moins joyeux qu'à la table du banquet, s'excuse et se retire, emportant dans son vieux cœur, impersonnel mais charitablement sensible, quelque chose qui lui rappelle le coup de grand couteau donné dans le gâteau des rois. En souhaitant à tous de s'amuser bien chrétiennement, il a jeté un regard attendri sur le groupe pèlerin où Émile, décidément soucieux, fait tapisserie avec sa tante et son cousin. Émile n'est pas artiste, pas même artiste de salon. Il n'est pas folâtre non plus, ce que remarquent bien les jeunes villageoises timides et rougissantes qui, dans la vaste salle, se contentent pour l'heure d'observer et ne parleront de tout cela que demain. Le prêtre parti, il y a détente dans les esprits. La conversation se fait plus générale, au point que les deux musiciens peuvent maintenant sans contrainte caqueter et s'édifier mutuellement dans l'interprétation improvisée des plus jolies scènes des « Noces de Jeannette ». Mademoiselle Esther chante à ravir les mots de la romance. « Parmi tant d'amoureux, de ma mine confuse, demain les méchants riront. » aux grands éloges de son accompagnateur, et avec une désinvolture expressive où Jean réalise de mieux en mieux que ce n'était pas la peine de l'aimer ainsi. Mais Hector Hardy est si absorbé dans son admiration et son agrément qu'il n'a pu entendre son ami prendre congé de ses hôtes et annoncer irrévocablement leur départ pour la ville au lendemain matin. Un autre esprit moins jeune devrait également subir l'attraction de cette évolution sentimentale. Maman brillant et sa vanité féminine ne sont pas là, croyez-le bien, pour mépriser les succès mondains de sa fille. Quand on n'a pas voulu lésiner sur le coût d'une éducation dispendieuse, quand on a soutenu généreusement, comme elle, l'ennui des longues séparations annuelles pour faire de son unique enfant une jeune personne très distinguée, les attentions du docteur Hardy devaient être beaucoup plus appréciées que les machinations d'un vieux pasteur pour faire le bonheur d'un orphelin pauvre. Et tout à l'heure, lorsque cette mémorable soirée prendra fin, parmi tant d'impressions diverses qui animeront les esprits des uns et des autres, après tous les éclats de voix où se seront confondus rires, compliments et adieux, la veuve pèlerin, au bras de Jean, s'efforcera vainement d'oublier qu'on ne lui a pas dit bonsoir. Chapitre 8. La trame rompue et la grande pitié de Jean. Le bon curé de Saint-Germain a bien réfléchi depuis l'instant où, heureux encore et sans souci, il tranchait de son grand couteau la pâte affriolante du gâteau des rois. Et du même coup, inconscient, la trame de son roman pastoral. Des événements des plus graves vont maintenant se précipiter, qui le feront réfléchir davantage sur l'inanité de nos rêves les plus charmants, sur les mécomptes de nos projets les plus généreusement édifiés, où l'on prend trop candidement comme facteur l'abnégation des vanités sociales. Dans la paix si douce, pourtant, de son presbytère, il se révolte très secrètement contre la tyrannie de cette société et contre tout ce qui, de près ou de loin, en accrédite ou prépare les exigences. Il se dit de ces choses qu'il trouverait scandaleux de confier aux autres, et dont il se reproche même intimement de tant goûter l'amertume. Oh, ces couvents modernisés! On leur confie des petites paysannes, et ils nous rendent des catalogues de mode et de science aussi inutiles qu'incomprises. Les dernières heures qu'Émile Dupin passa chez ses parents lui furent pénibles. Son attitude nécessairement compassée, ni le soin d'éviter toute explication intempestive, ne l'empêchèrent pas cependant de témoigner la plus franche affection à sa tante et à son cousin, non plus que de ressentir au cœur un sentiment fort étrange chez lui. Pour la première fois, il voulut mépriser le prestige de l'argent qui s'en vient troubler de son apparat les rêves de bonheur les plus purs. Mais sa nature, généralement bonne, n'eut pas le temps de compléter ce perfectionnement. À peine rendu à la ville, il reçut de Cincinnati une dépêche qui le mandait d'urgence auprès de sa mère. Ah ! C'était son tour à lui de commencer à connaître les grands désarrois de la vie. Son père, appelé au Brésil par les intérêts de son commerce, s'en revenait plein d'espoir et de santé, lorsque, dans le golfe du Mexique, avant d'atteindre l'embouchure du Mississippi, il fut englouti à jamais dans la catastrophe d'une collision. À jamais aussi le caractère de ce jeune homme, jusque-là si humainement heureux, devait conserver la teinte inopinée de sa première tristesse. Et ce coup de foudre, en modifiant l'orientation de ses études, du moins temporairement, l'attira plus que jamais dans les soucis qui sont l'escorte de l'argent, en lui faisant rompre avec la vie canadienne. Par là même, il cessa dans une bonne mesure de hanter les cauchemars du bon curé, qui craignait tant son influence sur l'esprit de son protégé. Toutefois, le cher vieillard n'en a pas fini avec ses hantises et ses cauchemars, qui n'auront fait que se compliquer et se déplacer. Ce n'est plus sur son élève seulement qu'il lui faudra craindre l'appétence de la richesse et du raffinement qu'elle procure, mais sur des caractères encore moins avertis.
Aussi longtemps que Pierre Briand s'est contenté d'être son paroissien le plus à l'aise, de s'honorer de sa confiance et de seconder toutes ses vues comme fabricien, il était facile de lui faire agréer en outre le beau projet que nous connaissons. Maintenant, puisque les événements se sont précipités, il faut compter avec des éléments et des obstacles dont il avait malheureusement méconnu l'importance. L'éducation fausse d'une campagnarde et la frivolité naturelle du caractère féminin. Mademoiselle Esther, retournée à ses études, n'a pas voulu languir bien longtemps sur les livres. Elle a su obtenir d'un père facile et d'une mère complice son entrée dans le monde. Ce commencement d'émancipation lui a permis, puisqu'elle est grande demoiselle, d'assister à une fête sociale à la ville, de faire son début avec une intime amie dans une réunion de gens très distingués où elle a retrouvé l'intéressant Hector Hardy. L'entrée dans le monde, ou le début de la jeune demoiselle, est la mise en vedette, à jour conventionnel, de ses aptitudes sociales, de ses talents naturels, perfectionnés par une coûteuse éducation, de qualités vraies qui en feront un jour la femme bénie, pourvu que ce printemps trop hâtif ne les étiole pas dans leur première floraison, et s'il fallait tout dire, en vedette aussi, des caprices mutins momentanément trop flattés, qui en feront plus tard l'horrible mégère acariâtre. C'est aussi l'occasion pour des parents hautains et bien rentés de faire miroiter l'éclat, emprunté ou non, davantage d'auto, auquel une idylle trop brusquée devra de se voir transformée peut-être en un très vilain troc de sentiments. Mais c'est encore plus, hélas, la première mascarade officielle des vanités féminines sous les affecteries hypocrites. Après son début dans le monde, la jeune émancipée aura voix délibératrice avec ses égales, avec sa mère aussi, dans des colloques où se fourbissent les armes plus ou moins meurtrières de la toilette. Elle s'exercera, sous les leçons de l'expérience, à la guérilla des conversations oiseuses, des propos ambitieux, des jugements téméraires, enfin de la vie mondaine. Mode, exigence soi-disant de bon ton, coutume sociale, dont sa pauvre âme ingénue frémira peut-être, relèveront désormais de sa compétence et de son sens propre affolé, puisqu'elle a fait son début. Elle se croira tenue, quoi qu'en veuille sa prudence innée, de fréquenter bals et théâtres, dont l'éloignerait encore pour un temps sa candeur apeurée, si elle n'avait pas fait son début. Faire son début serait donc s'astreindre aux obligations mensongères de la mondanité, avant que l'autorité maritale, s'autorisant de ces hasardeuses conventions, s'en vienne étouffer de ses dictaments la voix d'une conscience tardivement assagie. Après quoi, l'obéissance conjugale remplacera les exigences sociales comme condiment des compromis à faire avec les réclamations de l'âme inquiète. Ainsi le veulent, dans la haute, l'usage, la mode, les convenances, les relations qui élèvent, les intérêts qui font bien vivre, enfin tous les succès à remporter sur la scène du monde, quand on vit uniquement pour y briller. N'allons donc pas nous étonner si la belle héritière de Saint-Germain, durant les mois du printemps, se désintéresse des choses de la vie rurale, ne prête qu'une attention distraite aux mille voix agrestes qui chantent autour d'elle, parce qu'une voix jusqu'alors inconnue, plus aimée et plus impérieuse, s'élève en son cœur. C'est la voix que monsieur le curé avait trop naïvement négligé d'évoquer et de consulter, avant d'édifier aucun beau projet selon ses vues. Que pourra-t-il maintenant contre la bonhomie du père, contre l'émoi et la vanité concertée de la mère et de la fille, contre les déclarations du prétendant, bientôt professionnel diplômé, qui brûlera les étapes et viendra très prochainement solliciter l'honneur d'une alliance aussi imprévue? N'a-t-il pas remarqué l'attitude de la jeune personne qui n'est déjà plus l'ingénue aux réparties candides qu'il aimait naguère à taquiner comme une aimable enfant?
Elle se dérobe maintenant à sa conversation, pour s'entretenir isolément de pensées trop peu secrètes, puisque la chronique villageoise les colporte, ou pour réserver toutes ses confidences à sa mère, ni hostile ni cachotière. Et lorsque le bon vieux prêtre tentera de raisonner le couple brillant, la vanité mondaine et la recherche d'un beau parti l'emporteront aisément sur sa belle théorie chauvine ou patriotique, à base d'affection charitable pour un orphelin pauvre. Il ne lui reste plus qu'à user de prudence et de ménagement pour empêcher son mécompte et ses déplaisirs de faire scandale au village, jusqu'au jour où, à la suite de quelques visites toujours sensationnelles du monsieur de la ville chez les brillants, il est invité à bénir de trop retentissantes fiançailles. Après quoi, le docteur Hector Hardy, déjà nanti d'une pleine autorisation paternelle, s'en va dans sa ville natale de l'Ouest canadien préparer son établissement professionnel en même temps que les préliminaires de son mariage à l'automne. Eh oui, les événements se sont bien précipités. Jean Pellerin était-il assez épris pour souffrir éperdument comme un personnage romanesque de cette cruelle déception de son premier amour? Ce serait trop dire. Il ne le savait pas encore. Il n'avait pas eu le temps de raisonner cet amour qui lui était venu inopinément à la suggestion trop brusque de son protecteur. D'en rechercher la cause intime qui naît au cœur comme le parfum au calice de la fleur pour embaumer toute la vie. Non. Dans son dépit, entre donc plus d'orgueil froissé que d'affection trompée. Parce que ce premier amour, il ne l'avait pas cherché, il ne l'aurait pas même rêvé. Il y aura là pour lui comme un remords dans l'éclosion de son sentiment juvénile, le remords d'une erreur qu'il n'aurait pas faite de lui-même, qu'il doit se défendre de reprocher à personne et qui complique son chagrin d'une orgueilleuse sauvagerie. Élevé dans la pauvreté et l'humilité, il accusait néanmoins une grande fierté de caractère, plus impérieuse que toutes les tendresses de son cœur. Après la fête des rois, aux froideurs graduellement accentuées de la famille brillant pour sa vieille mère et pour lui-même, qui avait remplacé des accueils si chaleureux et si spontanés, dans la solitude de son foyer de nouveau assombri par le deuil de l'oncle riche et secourable, il eut à loisir beau sujet de philosopher sur la double déconvenue de son cœur et de son esprit. Et c'est alors que les saines idées de son précepteur sur le bonheur vrai de la vie ne suffisaient plus à contredire celles de son cousin Émile. Ah, s'il avait eu, comme celui-ci, la fortune qui suppléa tant de choses aux yeux du monde, serait-il aujourd'hui cet être minable, désarmé par la pauvreté sous l'affront, en butte aux railleries de tout le village, d'autant plus secrètement méchante qu'elle succède à des jalousies secrètes aussi. Incapable d'aucun ressentiment, encore moins d'aucune ingratitude à l'endroit de son bienfaiteur aussi fourvoyé que lui dans cet avatar, il ne peut cependant, comme autrefois, se soumettre à ces objurgations doucereuses contre le mépris et la désertion du sol natal. Ce sol natal, auquel on voulait attacher toute sa vie, qui se dérobe sous ses pieds pour le laisser ridicule dans la confusion de son premier amour, qui ne perpétue le souvenir des siens que dans la poussière des morts et le réduit de sa mère pauvresse. Que lui doit-il, au sol natal, des tendresses ultérieures de son cœur meurtri et des aspirations de son esprit à jamais humilié? « Ne parle pas ainsi, mon bon petit enfant de Saint-Germain !» s'écria le vieux curé aux premières manifestations de ses nouveaux sentiments de son protégé. « Je m'en irai mourir, vois-tu, avec le chagrin de n'avoir pu faire comprendre à mon Jean, malgré toutes mes peines et mes leçons, que la plus belle chose dans la vie de l'homme, ici-bas, après l'amour de Dieu, c'est l'amour de la patrie qui est l'amour des siens. » Si Jean pouvait s'en expliquer, il lui dirait peut-être que son tourment s'entretient et s'active précisément de l'amour des siens, dans ces lieux consacrés par leur deuil et leur misère. Est-ce pour avoir cru un instant qu'ils pourraient honorer leur mémoire dans le travail de la glèbe canadienne et la prospérité, pour avoir vu une humiliante déception confondre ses espérances au début de sa vie, qu'il voudra quand même perpétuer son abjection dans l'amour des siens ainsi entendu? Puisque Jean ne peut traduire ses sentiments, en faire part à son précepteur dans des raisonnements et des récriminations que lui interdisent son âge, sa condition et ses moyens intellectuels, si le vieux prêtre, longuement exercé à l'étude des âmes, veut bien s'y prêter, il découvrira de lui-même, dans l'esprit de son protégé, trois impressions très profondes. Un irrépressible dégoût pour la vie rurale, surtout à Saint-Germain, une inclination atavique du côté de la vie d'aventure sur mer et le désir de la fortune édifiée à la manière américaine. Rien de tout cela, certes, nous le savons bien, ne provient de l'éducation qu'on a voulu lui donner. Mais tout cela s'affirme de plus en plus dans la mentalité du jeune homme, à la suite des événements divers qu'il a subis depuis quelques mois. La mort soudaine de l'oncle Dupin devait avoir son funeste effet sur la famille Pellerin. Au premier échange de lettres sympathiques avait succédé une correspondance fascinatrice et pressante dans laquelle la riche veuve éplorée priait sa sœur de venir habiter avec elle. Ce projet aurait dû sourire à Jean, mais il ne fut pour lui qu'un surcroît de contrariété. Malheureusement, la mère Pellerin, pauvre plante agreste, poussée dans le terroir canadien, y tenait par des racines trop profondes. Vouloir l'en extraire pour la transplanter là-bas, c'était déjà la détruire. Les discussions furent longues dans les tête-à-tête solitaires de la triste maisonnée, entre la veuve éprise de souvenirs et le fils incertain de son avenir et de lui-même. Ce n'est plus la confidente de ses intentions que Jean trouve en elle, c'est l'obstacle. C'est l'amour le plus désintéressé et le plus fort qui réclame et s'alarme. Quand il erre attristé autour de l'humble maisonnette, fuyant le regard des villageois à la tombée du jour, l'œil de sa mère le suit comme un reproche et l'éclair du phare comme un remords. Durant les beaux mois de l'été, cette torture morale s'aggravera des inquiétudes que lui inspire maintenant la santé débilitante de la pauvre mère. Monsieur le curé, que Jean ne fréquente plus à titre d'étudiant, dont les idées bien connues du reste ne lui serviraient d'aucun appui, vient souvent apporter à la malade le réconfort de son ministère et de ses conseils. Ce sont alors pour Jean de fatigants entretiens, où l'un et l'autre l'accablent de leur double affection. La seule qui lui soit donnée aussi pure, aussi généreuse sur la terre. Saurait-il réagir? À leurs idées communes opposer les siennes, devenues trop personnelles? Non, il aimera mieux discrètement souffrir. D'ailleurs, il constatera bientôt que sa mère, anémiée par des chagrins longtemps entretenus, exceptionnellement réconfortée depuis quelques mois par un fallacieux mirage, est cette fois frappée à mort. Puisque Jean faisait toute sa vie, c'est elle qui mourra du grand déboire de Jean. Ah, pourquoi avait-elle cru un instant au mensonge de ce rayon de bonheur maternel, éclipsé sitôt dans l'ombre de sa misère accoutumée? Encore un mécompte d'autant plus cruel de sa triste destinée qu'elle n'avait rien fait pour le susciter. Comme la lumière qui scintille au large sur ce cap isolé dans les flots, les alternances de son chagrin et de son deuil reviendront donc, jusqu'à la fin, traverser les trop rares bonheurs de sa vie. La malade, devenue incapable de vaquer au ménage de l'humble maisonnée, Rose Després, l'ange secourable des mauvais jours, apparaît à son chevet lorsque Jean est obligé de s'en éloigner. Le père de Rose Després est un caboteur dont le vaisseau n'aborde guère dans le mauvais parage de Saint-Germain et fait ses rares escales en été au quai de Saint-Louis et de Saint-André. Sa demeure, établie au pied de la falaise, n'a pas d'autre voisine, à un demi-mille de distance, que la maisonnette au pignon rouge du côté de l'ouest. Partant, c'est là que la veuve Pellerin, depuis les premiers jours de ses épreuves dans son isolement, avait accoutumé de courir aux plus urgents quand il lui fallait quérir aide ou secours. Et Rose, dès son âge le plus tendre, avait appris de sa mère l'art charitable de secourir instinctivement plus malheureux que soi. Humble, impersonnelle, elle s'acquitte comme d'un devoir filial des menus soins que réclame la malade. Jean l'affectionne à l'instar d'une sœur, qui de tout temps aurait été de moitié dans ses peines. Il ne voit pas qu'elle a grandi. Il ne remarque pas encore, ce qu'il comprendra un jour, que cette candeur, heureusement pour notre société, est la contrepartie, l'antidote de certaines affecteries féminines rendues séductrices par une fausse instruction. En ces moments si pénibles, il n'a pas le loisir d'édifier ses chagrins au spectacle de la vertu inculte. Ce sont les affres de la mort de sa mère, qui vont accaparer toute son âme et tout son cœur, pour ne lui laisser pendant longtemps qu'une désespérance farouche, aux prises avec la tendresse assagie mais impuissante d'un vieux curé. Enfin, après quelques semaines d'anxiété, voilà que celui-ci et le médecin jugent le moment venu d'administrer à la malade les sacrements des mourants. La triste nouvelle flambe comme une traînée de poudre d'un bout à l'autre du village. Dès lors, à la place des jalousies cancanières, suivies de moqueries satisfaites, dont la veuve et son fils avaient été l'objet depuis un an, une sympathie réelle et réparatrice se manifesta partout pour ces malheureux. À mesure que la vie se retire chez la malade et confond l'espoir pourtant si tenace de ceux qui s'emploient à la retenir, s'augmente l'affluence et la compassion autour d'eux. Et elles étaient là nombreuses, les bonnes villageoises, au verbe naguère encore peut-être ironique, s'apitoyant dans la prière et les larmes, aux dernières paroles, aux derniers regards de l'agonisante à l'adresse de son fils. Lorsqu'un soir de fin d'été, sous les bénédictions finales et l'absolution du prêtre, à l'heure où le phare s'allumait au large, l'œil de la veuve Pellerin s'éteignait. Tour à tour fixé, dans un suprême effort, sur Jean que navrent les sanglots, sur Rose Després portant la croix rédemptrice à des lèvres exsangues, sur l'éclat du phare qui s'avive dans les ombres du dehors, la prunelle alanguie de la mourante une dernière fois s'anime d'une vision funèbre que veulent traduire ces mots entrecoupés des derniers râles. Ah, la lumière! Faut pas, faut jamais, mes enfants, oublier la lumière éternelle. Prophétisez maintenant, monsieur le curé de Saint-Germain. Vous en avez le loisir et l'invite, plus sûrement que dans aucune fête sociale, sous l'inspiration des sentiments si purs et si vrais qui vont naître autour de cette mort. Le jour des funérailles, lorsque les derniers tintements de la cloche funèbre se furent tus, après la dernière bénédiction tombée de sa main tremblante sur les restes mortels de la mère dans les herbes grasses du cimetière, le bon vieux prêtre fit mander le fils, Jean, qu'il voulut retenir à sa table, ainsi qu'au jour tant regretté de sa prime jeunesse. « Viens chez moi, que je voudrais faire chez toi, mon cher enfant. J'ai béni il y a un instant ta pauvre mère dans la mort. Je voudrais aussi te bénir dans la vie, toute la vie qu'il te reste à fournir. Mais avant cela, j'ai encouru une grave obligation envers toi. J'ai à te demander pardon. » « Pardon ? Pour vous, monsieur le curé ? Vous, mon bienfaiteur à qui je dois tout ? » ?»« Oui, à qui tu dois d'avoir été fourvoyé dans tes premières aspirations de jeune homme ? À qui tu dois, dans une trop grande mesure, l'état d'âme spécial où tu te trouves aujourd'hui et que j'appellerais inquiétant. Quand tu as perdu ton père, tu étais encore petit enfant, et ton chagrin d'enfant, confondu dans l'exubérance de l'amour maternel, ne pouvait pas être conscient et réfléchi comme la peine dont tu souffres actuellement. cette peine à la disparition de ta mère, après la vie si intime que vous avez faite tous deux, s'attaque à un cœur déjà souffrant et souffrant par ma faute. Je m'étais mépris, Jean. Je croyais faire ton bonheur, et c'est ton malheur que j'édifiais en te déclassant. La bonne Providence voit mieux que nous dans les beaux projets que nous rêvons. Bénissons-la de n'avoir pas voulu les laisser se réaliser. Et ne lui demande jamais une épouse à qui tu devrais tout l'appoint matériel de ton établissement. C'est une erreur, Jean. C'est une erreur, avec cet autre, d'abandonner à la femme l'esprit dominant de la communauté conjugale. La dame au piano, ou signant échec, aurait réparti sur toute ta vie l'humiliation qui révolte momentanément aujourd'hui ton amour-propre. Défie-toi toujours aussi de l'amour-propre, c'est un mauvais conseiller. Ne cherche plus la fortune dans le mariage, qui n'est pas une loterie, mais avant tout un sacrement. Et pardonne-moi, à moi, vieux prêtre, d'avoir inconsidérément commis cette erreur dans mon aveugle affection. Il est trop tôt encore pour chercher une nouvelle orientation à ton cœur. Non, avant cela, deviens quelqu'un par ton travail, par ta bonne conduite, par tes talents, par toi-même. Laisse passer ce triste nuage. Il y aura de beaux jours pour toi sur la bonne terre canadienne. Cette bonne terre canadienne, je n'en possède qu'un arpent, monsieur le curé. Le travail de mes bras au service des autres, je veux bien le donner, mais pas ici. Et où donc, je t'en prie? Tu ne l'aimes donc pas, cette terre-là? J'y ai trop pleuré. Et précisément, c'est parce que nous l'aurons arrosée de nos larmes et de nos sueurs, parce que les nôtres en ont fait autant avant d'aller s'y confondre dans une commune poussière et pour toujours, qu'il nous faut l'aimer. Mais rien ne presse. Nous verrons, nous verrons. L'allusion est trop directe aux quelques pieds de la bonne terre canadienne si fraîchement remuée. Jean, respectueux et attristé, n'insiste pas, mais n'est pas soumis. C'est le jeune coursier plein d'ardeur qui sent sa liberté maintenant possible, veut rompre sa longe et fuir. Rien ne le retient plus dans ce village que l'affection sénile de ce bon prêtre avec la reconnaissance qu'il voudrait lui témoigner. Et il y a chez lui quelque chose de plus impérieux que tout cela, qui malheureusement l'égare et l'entraîne, puisqu'il n'a plus maintenant de tendre mère à voir pleurer. C'est le dépit de son esprit trop fier. Dans quelques jours, le village sera en liesse. Ce sera la noce élégante depuis longtemps résolue chez les Briands. La noce que monsieur le curé annoncera dimanche dans son prône, tout le monde le sait. On en parlait même très discrètement dans de petits groupes fort sympathiques à la porte de l'église, après les humbles obsèques de la veuve pèlerin. Prenant congé de son protecteur, en refusant avec une énergie insolite de loger cette nuit au presbytère, Jean regagne son lamentable foyer, où il trouve heureusement réunis les membres de la famille Després, ses voisins. Le navigateur, dont le vaisseau est au quai de Saint-Louis, a pu assister aux funérailles de sa voisine et repartira le surlendemain pour la ville. Jean, l'œil en feu et le cœur malade, au milieu de ces bons intimes dont la pitié se fait si naïve et si franche, à la vue de Rose qui n'a pas fini de pleurer, perd tout à fait contenance et laisse, sans contrainte, éclater sa peine. Rien, rien ne lui reste plus sur cette terre canadienne dont parle si chaleureusement monsieur le curé, rien que cette triste masure aux pignons rouges, pauvre mausolée de sa jeunesse défunte. Va-t-il s'y enfermer pour y mourir aussi sans avoir vécu? Va-t-il y vivre dans la mendicité qui pouvait suffire à une pauvre veuve et répugne à tous ses instincts les plus nobles, avivés par un commencement trop avancé d'éducation? Que peut-il attendre enfin, malgré tous les bons conseils théoriques et patriotiques, attendre de cette petite patrie? Si ce n'est de lui laisser, un peu plus tôt, un peu plus tard, ses os de mercenaires. Ne vaut-il pas mieux s'en éloigner, Dut-il traîner longtemps après lui ce noir chagrin qui suit l'exilé comme l'ombre du cavalier en fuite? Le sentiment patriotique remontera-t-il jamais dans son âme comme une marée? N'est-ce pas une seconde erreur que va Derechef lui faire commettre le bon vieux prêtre, qu'il ne sera plus là pour s'en repentir, comme il a fait après l'autre? Emmenez-moi, emmenez-moi loin d'ici, monsieur Després, le voulez-vous?
Je le veux bien, Jean. Tu peux toujours venir à Québec, ça te changera les idées.
Il te faut prendre de l'air, mon garçon. Sois prêt. Nous partirons après-demain. Je le veux bien.
Jean, qui n'a pas oublié la belle croisière dans les eaux laurentiennes avec son cousin, sentit que ses bonnes paroles rassérénaient son esprit comme une douce brise de mer tempérant l'ardeur d'une journée torride. Une courte visite au presbytère, le lendemain, sembla l'acquitter de ses devoirs envers son protecteur. Stupéfié d'abord de cette proposition, mais qu'il approuva toutefois, après avoir songé à la grande fête prochaine des joyeux villageois de Saint-Germain. Et Jean, dédaignant plus que jamais la terre où ils étaient venus mourir, s'aventura une deuxième fois dans la vie maritime dont avaient vécu ses pères.